Un homme de 47 ans est décédé samedi soir à Koumac, devant les portes de l'hôpital, hôpital qui était fermé durant ce week-end de l'Ascension. Au Congrès, les élus étaient réunis à la mi-journée pour une seconde lecture de la loi de pays portant diverses dispositions d'ordre fiscal. Après adoption en avril dernier, des conseillers loyalistes et rassemblements avaient demandé sa relecture. Une proposition de loi pour évaluer les politiques publiques. Le texte prévoit de fixer un cadre pour jauger l'efficacité des mesures prises par les élus du Congrès dans le temps. Un fonctionnement satisfaisant, une situation financière maîtrisée. La Chambre territoriale des comptes a rendu son rapport sur l'activité des casinos de Nouméa. Mieux protéger l'environnement tout en sensibilisant les usagers du lagon. C'est l'objectif de la session de formation des ambassadeurs du lagon cette semaine. Et puis du sport avec du karaté, vendredi et samedi, la Calédonie accueillera les Océanias de la discipline. Près de 300 athlètes seront réunis à la salle Omnisport de Lanzvata. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans InfoSoir pour tout savoir de l'actualité en Calédonie et dans la région pacifique. Et à la une de l'actualité, les faits divers. Un homme de 47 ans est décédé devant les portes de l'hôpital fermé de Koumac. Le drame s'est produit samedi soir. L'homme, originaire de la commune, a été transporté par sa famille alors qu'il était victime d'une crise cardiaque. Sur place, les gendarmes sont intervenus, lui ont prodigué les premiers secours relayés par les pompiers, puis les médecins et infirmiers du SMUR populaire. Malheureusement, les efforts n'ont pas suffi. Le manque de matériel plus que de personnel est en cause, comme en témoigne Kevin Leclerc, pompier du SIVM Nord et créateur du SMUR populaire.
C'est une intervention où on a eu pas mal de moyens humains qui ont été mis en place. La gendarmerie était en train de tourner dans le village, c'est du personnel qui est formé au premier secours. Ensuite, on a eu les pompiers qui avaient été déclenchés, qui sont arrivés juste après les gendarmes. Et on a eu le SMUR populaire qui est arrivé derrière avec deux médecins et trois infirmiers. Il y avait le personnel, du matériel vraiment de première urgence qui nous est mis à disposition par le CHN. Je sais que cette intervention-là, elle a marqué certains personnels soignants, la famille aussi, par rapport au fait qu'on était devant les urgences et pas dans les urgences. L'entrée des urgences, en fait, est composée d'un accueil, ensuite de trois lits et d'une salle de déchocage qui sont actuellement fermées. Et lorsqu'il y a une personne qui a un accident grave ou un arrêt cardio-respiratoire, cette salle-là, en fait, permet d'accueillir la victime et d'avoir accès à tous les matériels et à tous les soins dans les meilleures conditions.
Des propos recueillis par Charlotte Coulson. Et depuis la fermeture de l'hôpital de Koumac, un médecin est de garde, mais seulement une journée sur deux. Il n'y avait donc personne pour ouvrir les portes de la salle de déchocage dans les temps ce samedi. Les élus du Congrès réunis pour une seconde lecture sur la loi de pays portant diverses dispositions d'ordre fiscal. Le texte avait été adopté une première fois, c'était le 18 avril dernier. Mais 17 conseillers loyalistes et rassemblements ont demandé sa relecture, Charlotte Coulson.
Une première lecture de ce texte qui avait eu lieu, vous l'avez dit, en avril, avant d'être finalement adopté, non sans créer quelques débats houleux, notamment sur la question des protections de marché. Mais la séance fut beaucoup plus calme aujourd'hui. La majorité des articles a été adoptée sans discussion. François Suvé et Nadine Jalabert du groupe Les Loyalistes ont déposé un amendement relatif à la taxe provinciale sur les télécommunications. Il a été rejeté par la majorité indépendantiste. Le groupe Calédonie Ensemble a également présenté une série d'amendements, notamment sur les régulations de marché. Le groupe a présenté un dispositif permettant aux entreprises bénéficiant de protection de renouveler leur demande d'instruction puisqu'elles n'ont pas pu le faire l'an dernier. Calédonie Ensemble propose d'ouvrir une nouvelle période d'instruction d'un an à compter du 1er juillet 2025. L'amendement a été présenté par Philippe Dunoyer.
Le problème, c'est que pour plein de raisons, on a mis du temps et qu'il reste encore plus d'une trentaine de secteurs pour lesquels les entreprises n'ont pas été en capacité de déposer leur dossier parce que l'administration ne pouvait pas instruire ses demandes. Donc l'amendement aujourd'hui décide de dire on va ouvrir une période d'un an à compter du 1er juillet 2025. Pour permettre à ces entreprises de déposer leur dossier. L'administration va les instruire, elle dira oui, elle dira non en fonction de la qualité des engagements pris, et on aura pour ces entreprises un peu plus de répit, parce que je rappelle qu'il y a plus de 2000 personnes qui travaillent dans ces entreprises, et que la perspective de perdre sa protection de marché ou sa régulation de marché, c'est aussi une menace sur la pérennité économique et sur le maintien des emplois. Je pense qu'on n'en a pas besoin par les temps qui courent.
Philippe Dunoyer qui se félicite de l'adoption de l'amendement à l'unanimité. Le groupe a déposé un autre amendement concernant la fiscalité des professionnels de santé. Il visait à exonérer à 100% certains métiers pour une durée de 4 ans. Les infirmières, les métiers hospitaliers en pénurie et les professionnels exerçant dans certaines zones en manque. Comme lors de son premier examen le mois dernier, l'amendement a été rejetée avec 22 votes contre des indépendantistes et 20 abstentions des loyalistes et du rassemblement de Yohann Le Courrieux et de Milakoulo Tukumouli. Finalement, le projet de loi de pays tel qu'amendé a été adopté à l'unanimité.
Et les protections de marché avec le travail d'audit lancé par le gouvernement, c'est l'un des sujets dont nous parlerons demain matin avec le président de la FINC, Xavier Benoît. Il sera notre invité à 7h30, l'occasion aussi de voir avec lui les raisons qui ont poussé la FINC et la CPME à quitter NC-ECO. Une proposition de loi pour évaluer les politiques publiques. Elle est déposée par la présidente du Congrès, Velma Falaeo, et par Vaimoa Mouliava. Le texte prévoit de fixer un cadre pour jauger de l'efficacité des mesures prises par les élus du Congrès dans le temps. Une évaluation non seulement utile, mais devenue indispensable, selon la présidente du Congrès, Velma Falaeo.
Évaluer, c'est mieux gouverner. Dans le contexte actuel, extrêmement contraint d'un point de vue financier et budgétaire, il devient indispensable d'évaluer nos politiques publiques. Et notamment, en fait, pour ne serait-ce qu'en termes de transparence et de lisibilité, et en termes de résultats vis-à-vis de la population, il faut vraiment mener le travail et doter la Nouvelle-Calédonie d'un cadre pour évaluer les politiques publiques. Aujourd'hui, on n'a pas de visibilité sur les politiques que nous votons. C'est compliqué parce qu'il y a une multitude de personnes ici qui ont des données et que ces données ne sont pas forcément croisées entre elles. Et aujourd'hui, c'est le travail notamment que nous voulons faire. On pose le cadre réglementaire et ensuite on voit toutes les questions, le partage de la donnée, quelles sont les politiques qu'il faut évaluer. Enfin voilà, c'est un travail de longue haleine, mais j'y crois vraiment.
Plusieurs partenaires comme le CESE, l'ISE, la CTC, mais aussi l'UNC pourraient apporter leur contribution pour évaluer des mesures ciblées par les élus. Vaimoa Mouliava, élu de l'éveil océanien au Congrès.
Vous voyez bien que beaucoup de dispositifs qui étaient vertueux à l'instant T se sont retrouvés être notre tombe aujourd'hui. Parce que pas évalué, donc pas ajusté, est-ce que ça a rencontré l'impact auprès de la société ? Donc tout ça rentre dans une logique de transparence de l'action publique. Je pense qu'il faut poser les bases, les conditions favorables à une reconstruction éclairée, suivie et puis évaluer si les deniers ont été dépensés de manière correcte. Et la population aujourd'hui a besoin de tout savoir, de savoir comment est dépensé son argent. Est-ce qu'il est correctement fait, oui ou non? C'est la confiance qu'il faut rebâtir. Et comment rebâtir la confiance si ce n'est que de le faire de manière factuelle?
Le texte déposé ce jour sur le bureau du Congrès pourrait passer d'ici le mois d'août en séance publique au Congrès. Notez à présent ce rendez-vous d'antenne sur Radio Rythme Bleu. Accompagner les personnes porteuses d'une idée de création ou de reprise d'entreprise, c'est l'objet du programme d'accompagnement gratuit et personnalisé mis en place par la province Sud. Ce dispositif baptisé Créasud sera le thème du magazine Citoyen demain donc. Et pour en parler, nous serons en compagnie de Janine Valagatouke, chef du service emploi-logement à la province Sud, de José Marquez, conseiller emploi-logement à la fois, Cybèle Carpentier, coach et puis Philippe Richard, cadre bénéficiaire du parcours Créasud.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, approuvez-vous la méthode de Marine Le Pen qui propose à la Nouvelle-Calédonie une pause institutionnelle pour laisser la priorité au développement économique avant un référendum d'autodétermination dans 40 ans? Si vous approuvez cette méthode, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain donc pour la réponse à la question du jour. 17h56, première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire et notamment ce rapport de la Chambre territoriale des comptes au sujet de l'activité des casinos de Nouméa.
Savez-vous que si vous êtes équipé d'un chauffe-eau électrique, vous pouvez couper son alimentation si vous vous absentez plus de 24 heures afin de supprimer la consommation due au maintien de la température?
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Préservez votre habitation contre les termites avec Formula 4D.
Traitement de charpente, pièges préventifs et barrières chimiques.
Déductible de vos impôts. Infos sur formula4d.com.
À vos côtés depuis 40 ans.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'Infosoir, Léo Fichou.
L'activité des casinos de Nouméa scrutée par la Chambre territoriale des comptes, le contrôle a porté sur les exercices 2019 et suivants. La CTC a formulé 3 recommandations à la Société des casinos et une à destination de la commune de Nouméa, Jean-François Baudin.
Si l'État fixe le cadre réglementaire des jeux de hasard, c'est le gouvernement qui délivre les autorisations et il revient à la commune d'implantation, en l'occurrence celle de Nouméa, d'établir le cahier des charges de l'exploitation des 2 casinos, le Grand Casino et le Casino Royal. La Chambre territoriale des comptes rappelle qu'un casino comporte 3 activités distinctes, le jeu, l'animation et la restauration. La CTC recommande à la commune de Nouméa de définir un cadre contractuel plus ambitieux pour l'exploitation des casinos, pour préciser ses engagements en matière de développement touristique et de manifestations culturelles et artistiques, accompagnés par des indicateurs qui permettent d'en assurer le suivi. En faisant cette recommandation, la CTC note que le dernier cahier des charges signé en décembre 2024 va déjà dans ce sens. Elle souligne également que le fonctionnement de la gouvernance est globalement satisfaisant, même si l'organisation sous forme d'une cogérance semble fragile au regard des statuts. La Chambre des comptes recommande donc aux casinos de mentionner la possibilité de nommer un ou plusieurs co-gérants dans ces statuts. Pour le reste, le rapport de la CTC souligne que la situation des casinos a connu une évolution financière favorable entre 2019 et 2023, avec des charges maîtrisées. En 2024, en raison des émeutes, le résultat affiché est en baisse par rapport à l'exercice précédent, mais il reste supérieur au résultat de l'exercice 2019. La CTC rappelle enfin que les 2 casinos contribuent de façon très significative aux recettes fiscales des collectivités du territoire, notamment la province sud et la commune de Nouméa. Elle recommande enfin de réaliser des études pour le projet de rénovation du Casino Royal et de le présenter en Assemblée Générale avant la fin de l'année. Elle recommande enfin d'élaborer une programmation pluriannuelle des investisseurs et d'en assurer le suivi.
L'Agence sanitaire et sociale relaie la Semaine nationale de prévention du diabète sur le thème de le prédiabète, un signal d'alerte à ne pas ignorer. En Calédonie, plus de 16 000 personnes sont atteintes du diabète et dans le cadre de cette campagne organisée jusqu'au 23 juin, plusieurs rendez-vous de sensibilisation sont proposés pour mieux faire connaître cette phase précoce. On notera que 30 000 personnes ont été détectées en prédiabète sur le territoire. Les précisions du docteur Dominique Megrawa, médecin de santé publique à l'Agence sanitaire et sociale.
Alors le prédiabète, il va être détecté sur une prise de sang comme le diabète. La glycémie normale, c'est une glycémie à jeun inférieure à 1,10 g. Le diabète commence à 1,26 g. Et entre les deux, il y a cette période qu'on appelle le prédiabète, qui dit que la personne, au fil des années, va très certainement devenir diabétique. Pour autant, cette période, c'est une période de réversibilité, c'est-à-dire qu'on peut encore, en modifiant son mode de vie, ne jamais devenir diabétique. D'où l'importance de dépister cette période qu'on appelle le prédiabète.
Changer le mode de vie, ça veut dire quoi exactement?
Alors, on a 5 ennemis pour la santé, le tabac, l'alcool, bien sûr, mais aussi la malbouffe, la sédentarité et le stress. Donc, c'est sur ces 3 derniers axes qu'il va falloir principalement amener des petits changements dans son quotidien, en termes d'une alimentation plus équilibrée, d'une activité physique plus quotidienne et d'apprendre à travailler à son bien-être pour lutter contre le stress et avoir un meilleur sommeil.
Les bénévoles de l'association des diabétiques vous donnent rendez-vous demain de 8h à 18h à l'IPRU Païta ou encore samedi de 7h à midi au marché municipal de Nouméa, mais aussi de 8h à 18h au Dumbéamol. L'ADIE lance ce lundi sa 2e campagne annuelle de financement d'activités. 33 événements sont organisés cette semaine, donc en Calédonie, mais aussi à Wallis et Futuna. L'objectif est d'informer les porteurs de projets sur les possibilités de financement par microcrédit ou encore les prêts de groupe. Les explications d'Alexandre Dufault, directeur des opérations pour l'Association pour le droit à l'initiative économique.
L'objectif, c'est bien sûr d'aller au-devant des porteurs de projets pour les sensibiliser et puis aussi pour trouver des solutions avec eux, pour relancer leur projet. La thématique cette année, c'est financer son activité. Ensemble, c'est possible. Ensemble, ça veut dire avec l'ADIE, mais ça veut dire aussi en étant solidaire entre porteurs de projets pour pouvoir faciliter l'accès à nos financements. On a créé un rendez-vous particulier pour les gens qui sont très proches de la création d'entreprise, qui sont prêts à démarrer, ou même qui sont déjà en activité, pour avoir accès à un financement très rapide, jusqu'à 120 000 francs, sans garantie, pour pouvoir financer la trésorerie, le petit financement qui va permettre de démarrer ou de développer son activité en quelques jours simplement, pour pouvoir être très réactif dans ce contexte actuel et développer son business.
Les réunions d'information sont gratuites et pour les personnes intéressées, le planning des actions et des réunions menées par l'ADIE tout au long de la semaine est disponible notamment sur Internet.
Mais 18h02.
À l'heure de parler environnement et protection de la planète, la Province Sud organise cette semaine une nouvelle session de formation des ambassadeurs du Lagon. Ce dispositif s'adresse aux professionnels du tourisme nautique. Charlotte Coulson.
L'objectif, mieux protéger l'environnement tout en sensibilisant les usagers du Lagon. Durant une journée, ces futurs ambassadeurs suivent des ateliers encadrés par les gardes nature et le service de gestion des aires protégées de la province. Au programme, apprendre les règles en mer, se familiariser à l'écosystème marin, mais aussi s'engager à transmettre des messages pédagogiques aux visiteurs. Parmi les participants, Périclès Guérin, pilote de bateau, partage sa vision du rôle d'ambassadeur.
Je le vois plus comme quelque chose de vraiment de faire de la prévention, quoi. De pouvoir parler aux gens, de pouvoir leur expliquer aussi pourquoi on va leur dire de faut pas marcher dans le corail, faites attention. Il y a des zones qui vont être réservées sur les îlots parce qu'à cet endroit-là, il y a des tortues qui viennent pondre, etc. Donc de leur expliquer et de leur dire, ça peut être restrictif en disant, ok, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, mais leur expliquer pourquoi, tout simplement, pour pas qu'ils soient dans le flou et qu'ils sachent pourquoi on essaye de protéger ces endroits-là, quoi.
Et depuis 2023, la formation des ambassadeurs du Lagon est intégrée au programme de professionnalisation des acteurs du tourisme. Ce dispositif vise à accompagner les acteurs dans l'amélioration de leurs pratiques touristiques. Pierre-Olivier Berthaud, chargé du tourisme à la province, invite les participants à s'en rapprocher.
Ce plan-là, il permet d'accompagner en fait les opérateurs touristiques en province sud pour qu'ils s'améliorent dans leurs pratiques touristiques. Alors ça va de leurs pratiques touristiques durables, mais également tout ce qui est question de comptabilité, de mieux parler anglais, d'améliorer leur politique tarifaire et plein d'autres sujets aujourd'hui qui sont leur quotidien d'opérateur touristique. Le reste des formations qu'on peut trouver au sein de ce plan de professionnalisation des acteurs du tourisme se font soit par des coachings, soit par des accompagnements personnalisés ou par d'autres formations en salle où un professeur classiquement va leur donner des cours d'anglais ou de comptabilité.
Et la prochaine étape pour les ambassadeurs du Lagon, c'est le 5 juin au Cap de Poé à Bouraille, avec un module consacré au recyclage.
La 13e édition de la Semaine de l'Environnement a débuté aujourd'hui au Mont d'Or. Tout au long de cette semaine, la ville organise des actions de sensibilisation autour de la nature et du développement durable. Ce matin, plusieurs classes de CM2 étaient réunies au Centre d'éducation à l'environnement de Boulary pour des ateliers divers. Tri des déchets, ateliers jardinage ou encore découverte de la mangrove. Des activités concrètes qui semblent avoir intéressé les élèves.
J'ai appris les espèces des arbres. Par exemple, t'as un déchet, il peut être biodégradable, il peut être dans la poubelle jaune ou la poubelle rouge.
J'ai appris à planter.
Tu vas prendre du terreau et tu prends un pot. Tu plantes ta plante et après, tu mets de la terre.
J'ai appris le tri des déchets. J'ai aussi appris sur les arbres que les arbres luxuriantes, c'était un emblème pour le Mont d'Or. Il faut préserver la Nouvelle-Calédonie.
Et cette initiative ne concerne pas que les enfants, explique Olivier Berthelot, adjoint au maire de la ville du Mont d'Or en charge de l'environnement. Les agents de la ville sont également impliqués dans la démarche.
Nos agents doivent aussi montrer l'exemple dans leurs pratiques professionnelles au quotidien et puis les faire rayonner ces pratiques à l'extérieur. Donc il y aura des thèmes sur la maîtrise de l'énergie, sur la mobilité tout au long de la semaine avec des activités, des quiz et puis tout ce qui est par exemple si on est sur la maîtrise de l'énergie, ça peut être des choses aussi simples que la sobriété énergétique sur des rappels de base, qu'on sort d'un local, on pense à éteindre la lumière, la climatisation, quand on utilise une voiture, on essaye de faire du covoiturage, de raisonner un petit peu sur les plages horaires. C'est plein d'astuces, de petites choses, donc c'est pas forcément des grandes actions, mais c'est vraiment l'addition des petites actions des uns et des autres qui font que la prise en compte de la protection de l'environnement progresse.
Et la semaine se terminera samedi avec un atelier de permaculture de 8h à 12h, ouvert au grand public. Ça se passera au Centre d'éducation à l'environnement de Boulary. 18h passées de 5 minutes, on marque une seconde pause dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal et c'est du sport, Léo Fichou.
Oui, du tennis d'abord. Comme chaque année à Roland-Garros, des ramasseurs de balles calédoniens sont présents sur le tournoi. Ils sont quatre jeunes du territoire à avoir la chance d'être présents cette année. Des ramasseurs de balles sélectionnés par la Ligue de tennis de Nouvelle-Calédonie. Écoutez, Arthur Bongrand, le patron des 300 ramasseurs de balles de Roland-Garros, au micro de notre correspondant à Paris, Xavier Robert.
On attaque la dernière semaine du tournoi déjà, donc ça fait deux semaines qu'ils sont avec nous. Ils se sont bien intégrés au groupe, bien évidemment. Ils ont toutes les caractéristiques et toutes les choses qu'il faut pour faire vraiment partie du groupe intégrante de nos ballos. On leur a terminé la formation quand même sur la semaine des qualifs, puisqu'il y avait quelques choses qu'ils n'avaient pas forcément intégrées, mais depuis, tout va bien. Ils ont déjà ramassé sur le Challenger, bien évidemment, à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, mais un tournoi du Grand Chelem, c'est un peu plus exigeant, ça va un peu plus vite, c'est pas tout à fait les mêmes joueurs, les changements de balles sont pas au même moment, etc. Donc voilà, on a vraiment dû leur transmettre les dernières informations, mais ils étaient quand même très bien formés et du coup l'apprentissage a été très rapide. Pour l'instant, on les fait vraiment évoluer sur tous les cours, donc ils vont passer sur un ou deux grands cours durant les deux premières semaines du tournoi, et sur la dernière semaine, à partir de mardi sûrement, on va commencer à mettre les meilleurs sur les grands cours pour qu'ils puissent se disputer les places pour les demi ou les finales.
Chaque ligue de tennis de métropole et d'outre-mer envoie tous les ans deux ramasseurs de balles à Roland-Garros sélectionnés lors de tournois locaux. En raison des émeutes de mai 2024, la Nouvelle-Calédonie a pu envoyer exceptionnellement cette année quatre ramasseurs de balles. Ceux de l'an dernier qui n'avaient pas pu partir à Paris et les deux autres sélectionnés en janvier dernier lors du BNC Tennis Open de Nouméa. Achille, Mareva, Gaspard et Yael ont entre 15 et 17 ans. Ils sont licenciés au tennis club du Receiving ou au tennis club du Mont Coffin. Ils ont déjà, comme ils disent, dans leur jargon, ramassé Djokovic, Tsitsipas, Pegula, Zverev ou encore Sabalenka.
Alors le premier grand cours que j'ai fait, c'est le Suzanne Lenglen. Et j'ai été choqué du bruit que ça faisait. J'avais pas l'habitude de voir autant de monde réuni dans un si petit espace, entre guillemets. C'était vraiment impressionnant.
C'était juste fou quand on vient de Nouméa. C'est vraiment un gros tournoi, mais là c'était une énorme grandeur, on peut dire. C'était un rêve d'être dans ce stade mythique. C'était juste incroyable comme expérience.
Il y a des trucs un peu différents qu'en Nouvelle-Calédonie, niveau technique, etc. Mais bon, ça s'est plutôt bien passé. Il y a la pression, il y a une petite compétition, on peut dire, entre ramasseurs. Enfin, faut être beaucoup plus concentré sur le terrain. On essaie de s'adapter au maximum.
Quand tu vois plein de monde autour de toi, on ne sait pas s'ils te regardent toi, s'ils regardent plus les joueurs. Je me dis que vu que je suis sur le terrain, peut-être qu'ils nous regardent aussi quand on fait un mauvais roulé ou un mauvais lancé aux joueurs. J'avoue que c'est un petit peu stressant au début, mais au fil et à mesure des jours, ça va mieux.
Et les impressions d'Achille, Mareva, Gaspard et Yael, ramasseurs de balles calédoniens à Roland-Garros. Des propos recueillis par notre correspondant à Paris, Xavier Robert. Et puis un événement à venir en fin de semaine sur le territoire, la Calédonie accueillera les Océanias de karaté. Le comité régional de Nouvelle-Calédonie avait pour objectif d'organiser la compétition tous les 2 ou 3 ans. Un pari réussi, puisqu'après 2022 à l'Arène du Sud de Païta, les meilleurs karatékas de la région seront cette fois réunis vendredi et samedi. Ce sera à la salle Omnisport de Lansvata. Une compétition de relance après les émeutes de 2024. Clément Leroux, président du comité régional de karaté de Nouvelle-Calédonie.
Oui, alors c'est une vraie occasion pour nous de relancer la discipline. Alors j'ai dit exactement la même chose en 2022 puisqu'on était la première compétition post-Covid, le premier grand événement organisé en Nouvelle-Calédonie. Ben là c'est un petit peu le cas post-émeute. D'abord un événement sportif de qualité puisqu'il s'agit d'un championnat continental, c'est l'équivalent d'un championnat d'Europe. Et puis une jolie fête, une belle soirée, on a prévu des éclairages dès que la nuit va tomber et on va faire le job parce que on a envie de faire progresser notre ligue, parce qu'on a envie de faire progresser notre discipline qu'on aime tant et parce qu'il faut relancer ce territoire.
En tout, près de 300 athlètes seront présents, 120 Australiens, une trentaine de Néo-Zélandais, mais aussi une dizaine de Fidjiens et un représentant tahitien. La Calédonie sera représentée par 33 athlètes, dont notamment Tommy Barrow, Kurt Evlakov, Kenza Amatsokerni et Célia Farr. Tous ont entre 17 et 19 ans et rêvent de monter sur le podium à la maison.
Donc moi je suis motivé, puis comme je l'ai dit, je rentre de 4 mois de France. J'ai participé à pas mal de compétitions aussi pendant ces 4 mois, donc beaucoup d'expérience. Donc je compte bien faire un podium aux Océanias.
Oui, alors j'espère que je vais tomber sur une triplette. Très excité de représenter le pays et puis de pouvoir tout donner aux côtés de la Fédération de Nouvelle-Calédonie de karaté.
Bah pour cette compétition, je veux faire un podium, mais le principal c'est que je prenne plaisir à cette compétition. Et en plus, y a mon entourage, il y a les amis, du coup, que demander de plus, il n'y a que de la motivation et c'est top.
Déjà, me prouver des choses à moi-même. J'ai eu une année compliquée au niveau des résultats en compétition. Donc, se prouver que les entraînements, tout ce qu'on a sacrifié, c'était pas pour rien. Et montrer qu'à la famille qu'on est là et se faire plaisir et voilà.
Les Océaniens de karaté, c'est donc vendredi et samedi de 9h à 19h à la salle Omnisport de Lanzvata. L'entrée sera gratuite les deux jours. Et puis on termine avec notre jeu à l'occasion de la New Caledonia Groupama Race dont le départ sera donné le 15 juin. La galerie Port-Plaisance et ses commerçants vous gâtent sur Radio Rythme Bleu. Chaque jour de cette semaine, tentez de remporter un magnifique lot d'une valeur de 40 000 francs chez vos enseignes préférées de la galerie. Aujourd'hui, c'est Nathalie de Nouméa qui a remporté le super lot mis en jeu. Un massage aux huiles chaudes d'une heure chez Pampouri, deux bons de cadeaux chez Brin de Folie, un bon chez Promode, Nilebox, un Bob Éponge jaune signé Karma Coma, des bons cadeaux chez VIP, Marlène et même de quoi se régaler chez Sandwich & Co. Soit un lot de 40 000 francs. Bravo à elle. Et demain, un nouveau lot à gagner d'une valeur de 41 000 francs, cette fois avec des bons cadeaux chez Zen Boutique, Promode, Brin de Folie, VIP, Marlène California et Sandwich & Co. Ainsi que deux bons de la galerie elle-même. L'occasion rêvée de vous faire plaisir ou de relooker votre dressing. Et pour jouer, c'est facile. Envoyez GR au 31 46, 148 francs le SMS. Le tirage au sort aura lieu à 17h30 demain donc. Et n'oubliez pas, le gros lot vendredi a remporté grâce à Groupama un tour en mer pour deux à bord du voilier Groupama Team. 18h13, place à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous, Nicolas.
Alors, cette nuit, les nuages bas circuleront et donneront de petites averses sur l'Oyauté et sur la côte est, ainsi que sur l'extrême sud et l'île des Pins en fin de nuit. Ailleurs, la nuit sera bien étoilée avec un léger voile d'altitude en début de nuit. Le vent d'est à nord-est soufflera de 10 à 15 nœuds, localement plus de 15 nœuds au point nord et sud de la Grande Terre et dans les vallées de la côte ouest. Les températures minimales baisseront très légèrement et s'échelonneront de 20 à 24 degrés. Demain matin, le soleil dominera sans partage sur l'eau. Sur les autres régions, les passages nuageux resteront fréquents et souvent accompagnés d'averses. Le vent s'orientera au secteur nord-est et soufflera entre 10 et 15 nœuds, localement 15 à 20 nœuds aux pointes de la Grande Terre, Léo.